Je suis dans les cuisines de la Chapelle Mel avec Sébastien Ossian. Bonjour Sébastien.
Salut Marie.
Alors tu es en résidence à la Chapelle Mel, tu es artiste.
Oui.
Est-ce que dans un premier temps, je peux te laisser te présenter à nos auditeurs? Pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu fais?
Ok, donc j'arrive du Finistère et je suis venu ici un peu plus de 2 semaines en résidence pour faire les débuts d'un livre illustré. Donc aussi bien des illustrations que l'écriture. J'avais en tête le scénario, mais là c'est vraiment les premiers dessins dans cet univers et les premiers chapitres. Et j'espère avoir bien avancé la première mouture que je présenterai là prochainement.
Alors tu nous parles d'un univers et d'un livre.
Ouais.
Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? De quoi ça va parler?
Eh ben oui, donc je l'ai appelé Osiren. Et en fait, c'est une espèce d'aventure extérieure, mais qui en fait est le reflet aussi d'une aventure intérieure qui se fait dans le même temps. Pour pas trop en dire, mais dans ce qu'il y a dans cet univers, il y a des choses qui sont inspirées d'un rêve que j'avais fait enfant, où, je sais pas si t'as connu ça, mais il y avait des publicités sur les gâteaux Pépito. Et c'était des petits bonhommes, des petits Mexicains, avec toujours un sourire collé sur la face. Et dans ce rêve que j'avais fait au cours d'une grande fièvre, les pépitos, des petits Mexicains, débarquaient sur Terre, prenaient les êtres humains, les passaient à une sorte de guillotine, et du coup leur tête tombait et leur repoussait une tête au sourire figé, une tête de pépito avec le chapeau. Et je me souviens dans ce rêve d'une course-poursuite où j'essaie de leur échapper. Je me rends compte que leur point faible, c'est cette tête qui, peu comble d'horreur, se décroche facilement. Si on les pousse, elles roulent. Et du coup, je balançais des canettes pour mettre ça sur leur chemin et y échapper. Et du coup, je pense qu'il y a eu un côté un peu où c'est comme si enfin j'avais ressenti quelque chose peut-être de l'uniformisation ou de la standardisation de la manière d'être et de la pensée. Qui est une force bien active à notre époque aussi. Et du coup, j'ai utilisé un peu ça comme background, notamment.
Alors, c'est un rêve qui est un petit peu barré, si je peux me permettre.
Bien sûr.
À quel moment tu t'es dit, je vais utiliser ce rêve pour en faire mon art? Qu'est-ce qui a été le déclic?
Alors, d'une part, je m'intéresse beaucoup aux rêves et à l'interprétation des rêves dans les pas de Jung, mais d'autres aussi, que ce soit Jodorowsky, que ce soit William Blake. Et donc travailler avec cette espèce de matériel intérieur, c'est quelque chose qui m'est assez accoutumier. Et là, en plus, je mélange ça aussi à un mythe ancien, dont il n'est pas temps de parler, mais qui vient aussi nourrir en fait ce sujet. Et je pense que en fait dans les mythes comme dans les rêves, on parle de forces psychologiques qui sont actives dans l'être humain. Et sous couvert d'une histoire avec des personnages, là il y a un tigre, une petite fille, un renard, etc. Et différentes créatures, sous couvert de personnages, en fait, on peut mettre en scène cette espèce de théâtre intérieur qu'on porte et y apporter de la conscience.
Cette restitution, elle va être destinée pour quel public? Est-ce que ça va être plus pour les enfants ou ça va aussi pouvoir toucher les adultes?
Et bien, vu que c'est à plusieurs niveaux de lecture, c'est vraiment tout public, on va dire. Parce que les enfants, je pense, ils verront surtout peut-être l'action, tandis que les adultes pourront faire le lien avec, je pense, certaines expériences. Il s'agit aussi de comment est-ce qu'on se rassemble, comment est-ce qu'on rassemble ses esprits, comment est-ce qu'on retrouve en soi une forme de complétude, sinon d'unité. Voilà, dans un monde qui est souvent dual et voire complètement morcelé.
On va parler un petit peu maintenant de toi, de ta carrière.
Ouais.
Quand as-tu débuté l'art et pourquoi?
Alors, j'ai... Quand est-ce que ça commence, cette histoire-là ? Je sais que petit, j'avais vu des fables illustrées et qu'à un moment, j'ai réalisé que c'était des êtres humains qui avaient fait ça. Et je me suis dit, waouh, on peut faire ça ? C'était si éloigné des dessins que je faisais à l'époque. Mais je me suis rendu compte que plus tard, je pourrais faire ça peut-être, mais je ne savais pas du tout comment. Donc ça a compté. Mais après, j'ai eu tout un cursus général et même... pendant des choses scientifiques que j'ai laissées en fait. Ça m'a pris vraiment un bout de temps avant de redresser la barre pour aller vers ce vers quoi je me sentais vraiment appelé. Et quand je dis un bout de temps, ça se compte en années. Et finalement, il y a eu un voyage en 2005 avec un ami peintre où il y a eu beaucoup de dessins qui étaient aussi vendus. Donc ça m'a... Il y a eu Princesse Mononoke de Miyazaki qui est sorti et qui m'a beaucoup touché. Et du coup, dans la foulée... À 27 ans, je commençais une école de dessin d'animation pendant 2 ans. Et voilà, et là, je pense qu'à partir de là, il y avait vraiment... ça m'a aussi appris à apprendre le dessin. Donc il y a des côtés... après, j'ai fait beaucoup d'expositions parce que je trouvais que l'animation, en fait, c'était trop de temps devant l'ordinateur et c'était pas la façon dont je me projetais. Je préférais ce dessin comme ça, qui est un peu aussi l'occasion de faire des rencontres, c'est de raconter des histoires. Je me suis intéressé à des peuples qui ont des sagesses anciennes, comme les Amérindiens, les Lapons. Et donc il y a eu tout un premier temps d'exposition, disons de 2009 à 2019 à Nantes. J'ai beaucoup exposé, je vivais à Nantes à l'époque. Et puis petit à petit, et ça c'était beaucoup aussi relié un peu au monde extérieur. Et puis petit à petit, aussi parce que j'approfondissais mon propre rapport à moi-même, à mon corps, à ma psyché, à ma façon de penser, il y a de plus en plus de choses qui ont été reliées un peu à l'aventure intérieure. Pour moi, c'est un vrai garant en fait de liberté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens retrouvent une vie intérieure, n'en ont plus peur ou la cultivent, et ben il y a beaucoup moins de choses qui ont de prise sur eux. Et du coup, on s'affranchit de tout un tas de choses qui pèsent, notamment quand on a beaucoup l'attention attirée vers l'extérieur.
Alors, lors de cette restitution, quel message ou quelle émotion tu souhaiterais transmettre aux personnes qui vont venir ?
Ben, déjà une part d'émerveillement. J'espère embarquer les gens dans cette aventure, il y a un voyage aussi dans cet univers. C'est vrai qu'au départ il a l'air un peu comme ça, assez étonnant, mais je me dis quelque part des univers comme ceux de Miyazaki le sont aussi, et finalement il y a quelque chose qui nous raccroche et qui nous... Voilà. Donc, et puis ce que j'aimerais provoquer aussi, je pense qu'il y a des choses qui parlent à l'enfant intérieur, il y a des choses qui vont parler à l'inconscient aussi. Je pense que tout ça peut faire surgir des choses. Je me demande comment seront les rêves des gens après cette lecture.
Tu parlais un peu d'une sorte de thérapie, du coup ?
Ouais, d'une certaine manière. Tout en faisant attention à pas devenir didactique ou ça l'est déjà pour soi-même, mais voilà, ça met des... Ouais, je pense que ça met des choses en mouvement et c'est une belle chose si ça dégage de nouveaux espaces en soi ou si ça indique un peu des choses comme ça. Ouais, j'ose espérer ça.
Alors là, t'es en résidence à la Chapelle Mel.
Ouais.
Qu'est-ce que ça t'apporte d'être ici ? Au niveau humain ou matériel ?
Eh ben, ça m'apporte énormément. Le truc, c'est que en donnant des cours à Douarnenez, je me suis pas donné forcément assez de temps pour cette résidence. Donc il y a un côté où je travaille beaucoup. J'en suis à une ou deux illustrations par jour et plus une page d'écriture recto verso au moins. Mais par contre, je dois dire que je me suis mis tout de suite au travail ici, donc j'ai senti que c'était vraiment porteur. pour ça. D'avoir son espace, de pouvoir travailler debout, enfin tout ça, ça me plaît beaucoup. Il y a des échanges avec les artistes avec qui je suis en colocation. Il y a une simplicité, une fluidité rare. Donc ouais, j'ai vraiment de la gratitude pour ça et je suis content d'avoir pu mettre tout de suite le pied à l'étrier. Et je dois dire que ça se voit assez peu, c'est-à-dire qu'il y a toute une part des subventions qui vont un peu d'État, qui vont un peu aux mêmes organismes comme la FRAC, etc. Ça c'est même un petit peu compliqué encore maintenant pour les résidences où il faut, avant on faisait appel à une structure d'accueil, maintenant il faut faire appel à une structure porteuse du projet, genre une association qui va présenter l'artiste à une structure d'accueil, mais souvent les associations sont sur d'autres boulot et donc du coup sont occupés autrement et donc du coup ça complexifie encore la démarche et en fait on arrive à des situations d'en parler avec une copine, on passe plus de temps à faire des dossiers qu'à vraiment créer. Or notre truc c'est de créer, c'est ce qu'on peut apporter de mieux au monde et les lieux où on nous laisse faire ça ils sont rarissimes. Et qu'est-ce que ça fait du bien?
Ouais. Je vais clôturer mon interview sur cette question que j'appelle la question entretien d'embauche. Si tu devais convaincre nos auditeurs de venir te voir à la restitution, qu'est-ce que tu leur dirais?
En fait, déjà, à la base, je pense pas qu'il faille convaincre. Mais venez écouter une histoire dimanche, une histoire qui fait du bien, que j'ai mijotée ces jours-ci dans un lieu qui fait du bien. Voilà.
Et donc on va pouvoir te retrouver dimanche à partir de quelle heure?
Et bien à partir de 15h les choses seront en place et à partir de 16h il y aura la lecture. Donc quand je dis les choses, c'est les dessins seront disposés et puis la lecture, voilà, dans cet univers. J'ai apporté d'ailleurs quelques dessins, je pourrais te montrer.
Super, ouais. Et bien merci Sébastien.
Merci à toi aussi.